Notre prochain invité, j'ai déjà eu l'occasion et le privilège de lui parler il y a quelques mois en pleine pandémie dans les événements et dans la foulée des événements qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Elle est professeure à l'UQAM et spécialiste des rapports ethniques. Madame Maryse Potvin. Madame Potvin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre du temps pour nous parler ce soir dans un horaire très occupé. J'en suis bien conscient. Madame Potvin, qu'est-ce qui n'a pas changé aux États-Unis particulièrement depuis la période du mouvement afro-américain, des droits civiques, là, qui est allé jusqu'en 1968? Et la fin de la ségrégation raciale n'était pas nécessairement la fin du racisme, mais de voir des scènes auxquelles on assiste aujourd'hui grâce à des citoyens qui filment sur vidéo, qui captent sur vidéo des choses qu'on pourrait même pas s'imaginer qui arrivent réellement. Comment ça se fait que ça arrive aujourd'hui après toutes ces années, alors que je dis pas que c'était rose entre aujourd'hui et 1968, mais on avait l'impression qu'on s'en allait dans le bon sens?
Mais écoutez, depuis ces années-là, il y a quand même eu la persistance de nombreuses inégalités aux États-Unis avec la continuité d'un racisme systémique, avec des formes aussi peut-être un peu plus subtiles, peut-être moins flagrante qu'à l'époque des années 60, là, avec les coca, etc., qui existent encore d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les formes sont parfois cachées, sont plus subtiles, sous le couvert qu'on gère bien la diversité, qu'il y a des beaux discours, des belles politiques publiques, des programmes d'affirmative action, etc., etc. Et les inégalités persistent quand même beaucoup aux États-Unis. On a vu en direct un meurtre là, avec l'affaire de George Floyd, qui était odieux, qui a choqué le monde entier. Là, on l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, ça a pris des proportions mondiales. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les citoyens se mobilisent, puis il y a plus de témoins de ce qui se passe. On voit plus de façon directe avec les médias sociaux, les caméras, les téléphones, etc., on peut voir de façon directe quand les inégalités se produisent dans la rue, par exemple. Mais il y a beaucoup d'inégalités qui persistent. Il y a une surreprésentation encore aujourd'hui des Noirs au chômage, des Noirs en prison, des bavures policières à l'égard des Noirs, du processus de criminalisation des Noirs dans le système de justice. Et avec l'effet Trump, là, le contexte aussi de la campagne électorale, ben il y a des polarisations qui se créent encore plus parce que il est très polarisant, M. Trump, là, on s'entend, là, donc il y a une montée des mouvements sociaux et ça l'a favorisé, ces injustices-là, flagrantes, évidentes, filmées dans la rue. Ça l'a donc fait monter davantage les mouvements sociaux actuellement dans un contexte très polarisé et de campagne électorale, évidemment, là, on s'entend. Ça accentue peut-être la volonté de se mobiliser davantage pour avoir un effet plus important, pour se faire entendre davantage parmi les mouvements noirs ou les jeunes ou les citoyens qui se mobilisent autour du mouvement Black Lives Matter.
Est-ce que ce climat-là, créé sans aucun doute en grande partie depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir, est propice, est-ce que ça a eu comme effet ou pour effet de légitimiser jusqu'à un certain point des individus ou des groupes ou sous-groupes qui tiennent un discours haineux, un discours dangereux?
Bien, c'est-à-dire qu'il y a des, tu sais, il y a des gens qui ont toutes sortes de théories du complot, des groupes populistes qu'on a vu réémerger ces dernières années, et l'instrumentalisation politique que fait Trump de ses thèses ou de ce discours populiste d'insatisfaction à l'égard de la diversité, des immigrants, bon, etc. Là, dans les dernières années, on a vu la remontée de ces groupes populistes extrémistes, identitaires, de citoyens, monsieur, madame, tout le monde, mais qui se plaignent sur les médias sociaux, dans les pages Facebook, des communautés virtuelles, etc. Il y a eu une montée, puis Trump a pour effet d'instrumentaliser ces insatisfactions-là et de donner une forme de légitimation politique à ces discours-là, à ces perspectives-là. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça devient une politique, ça devient une légitimation étatique qui va l'amener progressivement à adopter de plus en plus des lois discriminatoires, des décrets discriminatoires, comme on a vu qu'il a essayé de faire, d'ailleurs, au début de son mandat, en voulant, par exemple, interdire des gens de certains pays du monde arabe de venir aux États-Unis où son mur avec le Mexique, etc.
On est très, très intéressé par ce qui se passe aux États-Unis, particulièrement avec l'intensité des débats qui font rage actuellement. Jusqu'à quel point ça déteint chez nous, chez certains individus, dans certains discours de groupe ou sous-groupe, et jusqu'à quel point ça devient ou ça peut devenir, ça a le potentiel de devenir une menace et de miner nos rapports entre gens de différentes souches?
Ben écoutez, ça, c'est sûr que les théories complotistes circulent. Il y a des groupes extrémistes de toutes sortes sur le web aujourd'hui. Hein. Ça va de l'État islamique jusqu'à la meute, Atalante, le Coca, les White Power. Là, puis on tu sais, il y a plein de noms différents. Il y en a aussi en Europe, etc. Et donc, il y a beaucoup de groupes extrémistes, de partis extrémistes, de groupes terroristes aussi à travers ça. Et donc, il y a, on voit aussi qu'il y a un effet peut-être même de banalisation de certains discours racistes dans l'espace public. Les gens se permettent de dire des choses qu'on n'entendait pas il y a 15 ans, par exemple, à peine, là, il y a même 15 ou 20 ans, parce que c'est comme presque devenu banal. Les gens ne le disent pas directement, mais sur les médias sociaux, il y a un défoulement. Et après, ça crée des comportements peut-être un peu déviants, où les gens se pensent défenseurs de la veuve et de l'orphelin, si on veut, puis défendent toutes sortes de droits ou de faux droits et de fausses libertés, si on veut, par cet effet-là de discours banalisé dans l'espace public. Donc, moi, je crains beaucoup les influences des groupes populistes un peu partout à travers le monde. Mais comme les États-Unis sont notre pays voisin, et comme c'est quand même une grande puissance mondiale et qu'il y a un président qui a cette tendance un peu dictatoriale, autoritaire, avec ses purges, il va éliminer les gens qui sont contre lui, autour de lui, les fake news, les mensonges, bon, etc., on en voit chaque jour. Mais moi, je pense que ça a un effet de légitimation d'une pensée populiste. Parfois, tu sais, qui se défend contre les gros, mais on ne sait pas de qui ils parlent, qui se défendent contre toutes sortes de boucs émissaires construits, les musulmans, les noirs, etc. Et moi, ça m'inquiète un peu parce qu'il y a comme une défaite un peu de la pensée à travers ça et de la pensée critique. Il y a toutes sortes de croyances qui circulent. Moi, je pense qu'il faut avoir assez peur de ça. Il faut faire plus d'éducation des publics très jeunes, à l'école en particulier, et chez les jeunes, pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de piège-là.
Bien, Mme Potvin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de votre réflexion fort intéressante. Et bonne fin de soirée à vous.
Merryeaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir. Maryse Potvin, professeure à l'UQAM, spécialiste des rapports ethniques.